autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, en excellente compagnie aujourd'hui. Celle de l'éminent paléontologue Yves Coppens, le découvreur de Lucie et de tant d'autres fossiles humains, qui nous fait partager, une fois n'est pas coutume, non pas notre préhistoire, mais notre histoire, avec un petit H comme avec un grand H. Ses rencontres avec tous les grands de ce monde ou presque, de l'empereur Haïlé Sélassié, qu'il a reçu dans son palais éthiopien, à la reine d'Angleterre, qu'il a lui-même conviée à son exposition sur les origines de l'homme, en passant par tous les présidents français de notre 5e République, mais aussi la plupart des premiers présidents de l'Afrique indépendante, sans oublier Nelson Mandela, le pape François ou l'empereur du Japon, ça fait du beau monde. Et des portraits inattendus, croqués par notre génial et malicieux préhistorien dans son dernier ouvrage, Le savant, le fossile et le prince, du labo au palais, des terrains de fouille aux ors de la République. Autour de la question, quel lien entre les fossiles et les grands de ce monde, écoutez voir comment l'un de ces grands, notre ancien président François Hollande, a réagi après lecture de son portrait par Yves Coppens. C'était sur France 5 dans l'émission C'est à vous en février dernier.
J'ai bien sûr lu le chapitre qui m'est consacré dans ce livre, que j'ai parcouru avec angoisse, comment il allait me juger par rapport à mes prédécesseurs, pas encore par rapport à mon successeur, et au milieu de tous ces portraits de rois, de reines, de savants. Et donc j'ai trouvé que c'était assez fidèle, fidèle à toutes les rencontres que nous avions eues. Il m'a croqué comme s'il avait voulu faire son propre portrait, car il est tout ça aussi, Yves Coppens. Un grand savant, mais capable de gestes d'humour, de brandir ses clés dans une cérémonie officielle, moi-même de lui répondre. On est dans l'humour qu'avec ceux qui ont de l'esprit. Il n'y a rien de pire que finalement un trait d'humour qui ne rencontre aucune réponse.
Bonjour Yves Coppens.
Bonjour.
Vous voulez réagir à ces propos du président François Hollande après lecture du portrait que vous lui avez consacré dans cet ouvrage « Le savant, le fossile et le prince » édité chez Odile Jacob et dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Yves Coppens.
Oui, écoutez, ce retour m'a été très agréable. Comme vous l'imaginez, je marche un peu sur la pointe des pieds ou sur des œufs. Parce que quand on fait le portrait de gens vivants, forcément ces portraits-là peuvent un peu les étonner par ma gentille impertinence, parce qu'elle n'est pas trop violente. Et les réactions de François Hollande m'ont fait beaucoup plaisir. Et il a tout à fait raison quand il dit finalement, et c'est lui qui m'en a fait un petit peu prendre conscience, que en décrivant les autres, je me dévoile moi-même. Quoi.
Et oui, c'est ça, c'est 50 portraits, il y en a 50 d'empereurs, de présidents, de rois, de reines que vous avez rencontrés. C'est une vraie tranche d'histoire, une tranche de vie que vous nous faites partager dans ce livre, franchement, à nul autre pareil. Et quelle histoire en plus, c'est incroyable, Yves Coppens, parce que vos fouilles en Afrique ont coïncidé avec énormément de changements, avec les indépendances africaines, et vous avez croisé tout ce monde-là.
Oui, ça, c'est pas exprès, bien sûr. Il se trouve que j'ai vécu donc la fin du 20e et le début du 21e. Et le 22e, je suis pas sûr.
Pas sûr encore ?
Pas sûr encore. Et donc, pendant ce temps-là, pendant ce siècle-là, ou un petit peu moins, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment des choses importantes comme la chute de certains empires, comme l'apparition, la naissance de beaucoup d'États africains. C'est-à-dire que les présidents africains que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, étaient tous les premiers présidents de leur république toute neuve. Et c'est, encore une fois, c'est pas exprès, mais ça a été très bien que ça se soit passé comme ça.
Et est-ce que vous l'avez... comment vous est venue l'idée de ce livre étonnant c'est pour raconter ça, pour partager ça, pour parler de vous-même aussi à travers les autres, pour montrer aussi le rapport qu'il peut y avoir entre un savant, comme vous vous appelez, et puis des princes, des rois, des reines, des présidents, des empereurs.
Ça s'est mis un peu en place au bout d'un certain temps, mais j'avais envie depuis longtemps d'écrire, par exemple, ma rencontre avec la reine d'Angleterre, ce qui n'est pas fréquent.
Parce que, c'est pas fréquent.
Oui, ayant préparé cette exposition avec deux collègues anglais à Londres.
Sur les origines de l'homme.
Sur les origines de l'homme, oui. Ça s'appelait The Human Story, c'est tout simple. J'avais donc demandé au patron du Commonwealth Institute qui ouvrirait l'exposition. Et il m'a dit, c'est moi. Et je lui ai dit, mais on ne peut pas essayer d'avoir un ministre. Il s'était beaucoup amusé en disant, tu peux essayer, mais de toute façon, tu ne les auras pas. Et je lui ai dit, pourquoi pas la reine? Alors, il avait beaucoup ri, beaucoup plus ri encore. Et puis, finalement, la reine sollicitée a dit, oui, oui, je viens. Donc, la rencontre était tout à fait inattendue et tout à fait intéressante. Et je l'ai dégusté d'un bout à l'autre avec toutes les petites remarques que je me suis permis.
Mais oui, parce que vous les avez dégustées, ces rencontres, et vous nous les faites déguster. Alors il y a en plus tiré de vos archives, hein, des photos, des cartons d'invitation, enfin, c'est assez extraordinaire. Je rappelle tout de même pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas que vous êtes un des plus éminents paléontologues, professeur au Collège de France et au Muséum National d'Histoire Naturelle, internationalement connu, reconnu pour vos découvertes de nombreux fossiles humains. Évidemment, Lucie, notre grand-mère à tous, vous êtes aussi l'auteur à succès de nombreux ouvrages, car vous aimez ça finalement, nous faire pénétrer de l'intérieur, nous faire déguster, mine de rien ça vous amuse, vous avez toujours, on vous sent malicieux, effectivement vous n'êtes pas trop impertinent vis-à-vis de ces grands personnages, mais il y a toujours de la malice, il y a toujours un sourire, un clin d'œil, et vous nous entraînez là-dedans, Yves Coppens.
Oui, ça c'est mon esprit si vous voulez. Au départ, je n'étais pas du tout orienté vers la rencontre des publics, pas du tout. Et j'étais beaucoup trop timide pour penser au public. Et puis, j'ai été poussé, vraiment poussé par un certain nombre de patrons que j'ai eus vers les publics étudiants d'abord. Et cette rencontre m'a beaucoup plu, m'a beaucoup intéressé. Et finalement, cette espèce d'échange m'a intéressé au point que, finalement, de proche en proche, c'est devenu un bon tiers de mon temps désormais.
De faire passer.
Consacré.
Voilà, de faire passer votre science aux autres, à tous les autres nous sommes, et puis aussi aux grands de ce monde. Alors, vous l'avez dit, nouer des amitiés avec certains de ces dirigeants, de ces présidents, notamment des premiers, tout premiers présidents de l'Afrique indépendante. Vous avez noué une amitié, gardé une amitié avec Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant. Je vous propose d'abord de l'écouter, Yves Coppens, le 1er avril 1966, à l'occasion de l'ouverture du Festival mondial des arts nègres.
Comme nous aimons à le dire, la culture est le fondement et le but du développement. Mais pour dialoguer avec les autres, pour participer à l'œuvre commune des hommes de conscience et de volonté qui se lèvent de partout par le monde, pour apporter des valeurs nouvelles à la symbiose des valeurs complémentaires par quoi se définit la civilisation de l'universel, il nous faut, nous nègres, être enfin nous-mêmes dans notre dignité, dans notre identité retrouvée. Être nous-mêmes en cultivant nos valeurs propres telles que nous les avons retrouvées aux sources de l'art nègre. Celle-là qui, par-delà l'unité profonde du genre humain, parce que née de données biologiques, géographiques et historiques, sont la marque de notre originalité dans la pensée, dans le sentiment, dans l'action. Être nous-mêmes, non pas sans emprunt, mais je dis pas par procuration, être nous-mêmes par notre effort personnel, collectif en même temps et pour nous-mêmes, sans quoi nous ne serions que de mauvaises copies des autres au musée vivant. L'humanisme du XXe siècle, qui ne peut être que civilisation de l'universel, s'appauvrirait s'il y manquait une seule valeur d'un seul peuple, d'une seule race, d'un seul continent. Encore une fois, le problème se pose en termes de complémentarité, de dialogue et d'échange, non d'opposition ni de haine raciale. Chercheurs et professeurs, artistes et écrivains, vous êtes les vrais humanistes des temps contemporains.
Léopold Sédar Senghor, c'est en 1968 que vous l'avez rencontré, Yves Coppens.
Oui, je l'ai rencontré d'une façon très, très simple. C'est lui qui m'a cherché, si j'ose dire, entre guillemets. Et il se trouve qu'il était intéressé, de par sa culture, par l'Afrique, bien sûr, par l'origine de l'Afrique, bien sûr, par l'origine de l'homme en Afrique et puis par l'origine de l'homme tout court. Et il avait remarqué un de mes articles, un de mes papiers à l'Académie des sciences. Et il a écrit à un collègue de Dakar, qui était à Dakar, en lui disant qu'il souhaitait avoir ce papier et puis en savoir plus. Et ce collègue, très, très gentiment, au lieu d'envoyer le papier, lui a dit bah, « Écoutez, prenez contact directement avec Coppens, dont voilà l'adresse. » Et finalement, on a eu ce contact direct. Et bien sûr que ce que je faisais l'intéressait, bien sûr que ce que nous faisions tous en Afrique à ce moment-là, et surtout en Afrique tropicale, le passionnait. Mais en plus, ça s'est transformé en rapport personnel, en relation personnelle, très chaleureuse, quoi. Ça ne pouvait pas être autrement, hein.
Et vous avez même participé à un débat avec lui.
Oui, c'était un faux débat, en fait, parce que c'était à la Fondation Del Duca. Et à la Fondation Del Duca, Madame Del Duca, je n'ai pas connu moi, le monsieur Chino Del Duca, mais Simone Del Duca, souhaitait souvent dans sa fondation qu'il y ait des rencontres à deux, pour qu'il y ait une sorte de débat. Et elle avait proposé cette rencontre avec monsieur Senghor. Et cette rencontre donc a eu lieu et c'était drôle parce que on a eu beau parler avant de l'idée de parler de l'Afrique, de l'origine de l'homme en Afrique, etc. En fait, lui s'est lancé tout de suite sur le latin, le grec, l'antiquité, la littérature. Et puis c'était drôle parce qu'au bout de 20 minutes, il m'a dit qu'est-ce qu'on, enfin devant le public et un peu fort parce qu'il était un petit peu sourd. De quoi on parle maintenant ? ce qui a amusé tout le monde. Et puis on a démarré sur autre chose. Mais c'était très complice, quoi, si vous voulez.
Oui, très complice avec Senghor. Vous aimez ses écrits, hein. Vous avez dans ce livre d'ailleurs noté une phrase et j'étais sans parole devant l'énigme d'or de ton sourire. Alors là, je ne sais pas si c'est son sourire ou sa simple présence, mais il y a aussi une grande dame d'Afrique, une historienne, une intellectuelle engagée qui vous a marqué avant même qu'elle ne soit entre 92 et 2002 première dame du Mali. C'est Adamé Bakonaré. Je propose de l'écouter, Yves Coppens, dans cet extrait de La Marche du Monde sur RFI, où Valérie Nivelon l'interrogeait sur son rapport à l'histoire et au pouvoir. Tiens donc, ça devrait vous intéresser.
J'ai fait ma thèse sur le fondateur de l'Empire Songhaï. C'était vraiment Sundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali au milieu du XIIIe siècle, qui était la figure référentielle de tous les nationalistes. Donc le nom du Mali même vient de l'Empire du Mali. Et comme par un fait de hasard, c'est un Keïta aussi qui est devenu le premier président du Mali. Donc j'ai tellement théorisé sur les pouvoirs, tellement collé aux hommes de pouvoir également dans l'exercice de leur pouvoir que peut-être quelque part j'étais guidé par une force inconsciente vers le pouvoir sans avoir jamais fantasmé sur le pouvoir, sans avoir jamais imaginé qu'un jour je me serais trouvé au cœur du pouvoir.
Au cœur du pouvoir, Adamé Bakonaré, que vous citez parmi 50 autres personnalités, rois, reines, présidents, princes. Pourquoi vous a-t-elle marqué ? Comment l'avez-vous connue, Adamé Bakonaré, Yves Coppens ?
Eh bien, d'abord, je suis très, très attaché à l'Afrique. Et à l'Afrique et aux Africains, à l'Afrique et à ses habitants. Et il se trouve que cette dame superbe était invitée au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et j'y étais moi-même, puisque c'était une réunion essentiellement orientée sur l'Afrique, avec l'Afrique comme thème. Et je l'ai trouvée superbe, comme beaucoup d'Africaines que j'avais connues auparavant. Et c'est tout. Je l'avais abordée très peu de temps durant le festival parce qu'elle était très, très entourée. Et il se trouve que par chance, je trouve que c'est une chance, nous sommes rentrés ensemble à Paris. C'est-à-dire qu'on a pris le train, malheureusement pas très long, entre Blois et Paris. Et le wagon était pratiquement vide. On a été là tous les deux à bavarder pendant ce court séjour. Et ça a été fantastique. Enfin, moi, j'ai trouvé cette dame merveilleuse, très grande culture, très, très grande responsabilité d'historien. Et elle m'a beaucoup appris, par exemple, sur un phénomène qui nous étonne, nous, ici, c'est le phénomène des griots. Et vous savez que les premiers ethnologues ont pris au sérieux, si j'ose dire, à la manière européenne, les griots dans leurs discours. Or, les griots s'amusent. Les griots transmettent en effet une partie de la tradition orale, la vraie tradition. Mais il faut fouiller dans ce qu'ils racontent pour trouver ces éléments de la tradition. Il faut faire vraiment un travail d'historien. Parce qu'autrement, les griots sont suffisamment malins pour transmettre aussi les choses de l'actualité, pour faire en sorte que ce qu'il raconte vous plaise, etc. Donc il faut vraiment être africain pour, au creux de cette tradition orale, arriver à retrouver ce qui est vraiment antique ou ce qui est vraiment de l'actualité astucieuse.
Alors, vous n'êtes pas africain, Yves Coppens, quoique nous sommes tous africains, puisque nous venons tous d'Afrique, exactement. Oui. Mais il faut dire aussi que vos grandes expéditions, vos fouilles, vos découvertes ont coïncidé, parce que c'était dans ces années, les premières séries, c'était de 67 à 76, en Éthiopie, ont vraiment coïncidé avec un moment de l'histoire, et que ça vous a mis aussi, quelque part, au cœur du pouvoir africain de l'époque.
Oui, et non seulement ça, mais aussi au cœur de la recherche anthropologique, paléo-anthropologique,
bien sûr,
qui, à ce moment-là, s'est épanouie, si je puis dire. J'ai commencé mes travaux en Afrique en 1960. Et il se trouvait que le grand coup de démarrage de cette recherche en Afrique est apparu en 59, vous vous rendez compte ? 59, avec la découverte d'un crâne superbe quelque part en Tanzanie, et en 61, par sa datation de 1 700 000, quelque chose comme ça. Donc on avait d'un coup, en science, dans nos disciplines, une grande découverte, et sa datation toute neuve, et sa datation très impressionnante. Jamais on n'aurait osé auparavant aborder le million d'années. Et ça coïncidait, ça marchait en même temps que mon apparition sur la scène scientifique, si je puis dire. Donc tout ça a coïncidé aussi, en même temps que, comme vous dites, tout d'un coup, toute la fin du colonialisme et puis l'apparition, l'émergence de toutes ces républiques, avec leur premier président, qui sont ceux précisément que j'ai rencontrés, forcément, puisque tout ça coïncidait. Enfin, disons que j'étais au... Pas de ma faute, mais grâce à ma maman, je suis né au bon moment et je suis allé travailler au bon endroit, quoi.
C'est ça, en clin d'œil à ces années africaines, à ces années éthiopiennes notamment, je vous propose, Yves Coppens, d'écouter le remix par Bob Marley, en version reggae donc, d'un discours d'Haïlé Sélassié, ex-empereur d'Éthiopie, dieu vivant des Rasta, que vous avez croisé. Bob Marley, Haïlé Sélassié, c'est sur RFI.
As a prince of peace.
አንዱ ዘር ከሌላው ዘር ይበልጣል ይሻላል የሚባለው እምነት ዋጋ እንዲያጣ ሆኖ ካልተወገደ በአንድ አገር ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ካልተሰረዘ አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ብቻ የመብቱ መጓደል ካልቀረ ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ ኩሬን ኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደክምለትና የምንመኘው የዓለም በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም ዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ፣ ባንጎላ፣ ሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነጻ አስተወጡ ድረስ
Bob Marley remixe le discours de l'empereur Haïlé Sélassié. Nous sommes en compagnie d'Yves Coppens autour de son ouvrage Le savant, le fossile et le prince, paru chez Odile Jacob, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, et qui raconte vos rencontres, Yves Coppens, avec les grands de ce monde. Vous avez rencontré le dieu vivant des Rastafari lors de vos fouilles en Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié.
Oui, bah non seulement je l'ai rencontré, mais je l'ai même... rencontré souvent. Enfin, j'ai même été invité, enfin, j'ai été invité souvent à son palais et on avait des rapports.
Il y a le carton d'invitation, hein, de votre invitation au palais de l'empereur Alexis d'Acier.
Oui, un parmi beaucoup d'autres, parce que je l'ai vu pendant plusieurs années. Et là aussi, ça a fait un petit peu avec Saint-Gore, si vous voulez, c'est-à-dire que les premiers rapports étaient un peu protocolaires. Et puis après, c'est resté protocolaire, mais il y avait une sorte de lien presque de famille. C'est curieux.
Hein. C'était vous avez beaucoup fouillé en Éthiopie, ou à votre avis, c'est lié
au... Plus de 10 ans, oui.
Oui, bien sûr.
Alors donc, j'étais très, très présent. Et ce monsieur était très content, bien sûr, que je travaille en Éthiopie, que je fasse des découvertes en Éthiopie, que ça fasse la promotion de son pays, et en même temps de son empire, de son gouvernement. Mais en dehors de ça, il y a eu des rapports, enfin, comme j'ai souvent, hein, des rapports beaucoup plus personnels. Et il m'invitait très souvent au palais. C'était très drôle parce que les rapports étaient un peu compliqués pour moi. C'est-à-dire que le protocole était là, demeurait là. Et en même temps, il y avait un rapprochement, je vous dis, qui me faisait penser presque à un grand-père, quoi, par rapport à moi. Alors, j'exagère.
Étonnant personnage, enfin, oui. Un peu dépassé aussi par tout ce qu'il y a eu autour de lui, avec une très triste fin.
C'est-à-dire qu'il a eu une politique internationale qui a toujours été très, très, très bonne, et même en avance sur beaucoup d'autres pays. Et puis, il s'est laissé un petit peu mal entouré, peut-être, ou mal conseillé dans son propre pays, et c'est son propre pays qui l'a étranglé, quoi. Au sens malheureusement propre ou presque. Et l'histoire de Bob Marley, alors l'histoire de la Jamaïque et puis l'histoire des Antilles en général, ça a été de prendre cet empereur comme le symbole de l'Afrique indépendante.
C'est ça.
Et du coup, son discours que j'entends là, c'est amusant parce que la manière dont Bob Marley use de cette langue amharique est presque parfaite, quoi. Moi, je comprends ce qu'il raconte.
Et je suis allé... Vous parlez l'amharique, vous comprenez un peu l'amharique.
Je parlote, quoi. Parce que quand vous avez pendant 10 ans des employés, des gens sur le terrain, qui une cinquantaine quand même, qui ne parlent qu'amharique, vous êtes bien obligé de vous y mettre un peu, quoi. Et je suis allé il n'y a pas longtemps aux Antilles, notamment aux Grenadines. C'était sur un bateau et je faisais des conférences. Et aux Grenadines, j'ai eu la chance de rencontrer justement des artistes, des musiciens, et qui ont joué devant moi un certain nombre de ces musiques superbes. Et je les ai sur mon portable. J'aurais pu vous les faire entendre là.
Ah oui, à partir dommage. De mon prochaine portable. La prochaine fois, vous nous amènerez vos Rastafari recueillis. Alors, reggae recueilli sur place.
Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Oui, tout à fait. Et ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que l'empereur d'Éthiopie donc, est apparu dans ces îles lointaines comme le champion de la négritude, alors un petit peu comme Saint-Gore, mais d'une autre manière, et un petit peu comme un dieu vivant, enfin, d'autant plus qu'il avait ce port majestueux, alors que c'était un petit bonhomme, mais un petit bonhomme, vous savez, les petits bons hommes, quand ils ont le port qui convient, en imposent autant que d'autres, quoi.
Alors, vous n'avez pas seulement été en Éthiopie, hein, vous avez fait de nombreuses découvertes et expéditions au Tchad également. Et dans toutes ces expéditions, vous aviez, ce qui n'était pas tout à fait courant à l'époque, convié une jeune chercheuse, palynologue, Raymonde Bonnefille, sacré caractère, seule femme, hein, dans un milieu très masculin, qui a d'ailleurs souvent été effacée de la photo, mais pas de votre fait. Elle vous en est d'ailleurs très reconnaissante. Raymonde Bonnefille a publié ses mémoires sur les pas de Lucie, que vous avez d'ailleurs préfacé, dans lequel elle cite le poète René Char. Les traces font rêver. On écoute Raymonde Bonnefille s'en expliquer. C'était ici même dans ce studio il y a quelques mois et vous réagirez ensuite, Yves Coppens.
Oui, les traces font rêver. Et c'est dans mon ouvrage, j'ai voulu vraiment faire voyager, rêver et comprendre le continent africain. C'est-à-dire le comprendre dans sa diversité, le comprendre dans le fait qu'il était peut-être l'émergence de notre, on peut dire, nos espèces, oui, parce que c'est l'émergence quand même de l'Homo sapiens. Voilà. Et puis rêver comme peut-être j'ai rêvé dans cette découverte, ce choc, comme l'a décrit aussi Yves Coppens pour la première fois, et comprendre aussi les peuples, comprendre.
Oui, parce que vous parlez beaucoup, hein, voilà. de vos liens,
oui,
sur place. Hein.
Voilà, c'était bien sûr, on a travaillé, la nostalgie de l'Afrique. Bon, c'est vrai que pendant longtemps dans ma carrière, tout en ayant fait autre chose, j'avais vraiment, si j'y allais pas de 2 ans ou de 3 ans, on avait la nostalgie.
Vous aussi, Yves Coppens, besoin de retourner sur le continent, comme le disait joliment Raymond de Bonnefille.
Oui, mais je n'ai pas la nostalgie, tout simplement parce que j'y retourne.
C'est ça.
Alors, ce n'était que l'Afrique du Nord, si j'ose dire, et pas l'Afrique noire, mais j'en arrive. J'étais au Maroc récemment, il y a quelques jours, à une réunion de l'académie, parce que j'ai l'âge des académies, donc on fait ce qu'on peut.
Vous voyagez toujours, les traces vous font aussi toujours rêver, comme le dit le poète.
Ben, heureusement, oui. Oui, heureusement, puisque vous savez, quand on a une vocation, quand même, la vocation ne s'éteint pas au moment de la retraite
administrative. Parce que ça veut dire la retraite pour vous, oui.
Administrative. Ben, quelquefois, on me dit, en me regardant forcément, on dit, mais vous n'êtes pas en retraite. Si, hélas, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Je ne suis plus retraité. Et ça étonne beaucoup. À ce moment-là, en général, les conversations tournent vers autre chose.
Parmi toutes vos découvertes, toutes vos recherches, toutes vos fouilles, tous ces moments, on va revenir sur les hommes et les femmes célèbres, mais quelle serait celle qui vous a le plus marqué ou qui, là, maintenant, revient, ressurgit en premier?
La découverte elle-même, parce que la découverte elle-même, je l'ai pratiquée d'abord, enfin je l'ai pratiquée partout, mais je l'ai pratiquée d'abord en Bretagne, et au moment où j'étais vraiment très très jeune, et quand on est très très jeune, la fouille, c'est tout d'un coup l'accès à des choses que l'on n'attend pas, et c'est la rencontre avec un passé, et comme c'est la rencontre avec un passé qui par définition a disparu, votre imaginaire a une place extrêmement importante. Et pour moi, quand on me dit d'où vient votre vocation, je pense que c'est tout simplement, comme beaucoup d'enfants, l'exaspération de l'imagination, et l'imagination qui se comporte, qui se plaît à merveille dans l'archéologie. Moi, j'ai invité souvent des jeunes gens, des jeunes enfants sur des fouilles, et c'est merveilleux parce que on ne sait pas ce qu'on va trouver. Bien sûr que quand on est professionnel, on sait à peu près ce qu'on va trouver, mais il y a toujours des choses nouvelles.
C'est cette surprise-là, et le fait que ça fasse effectivement rêver.
Vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'enfoui, c'est sous vos pieds, et puis sous vos pieds, vous avez des milliers, millions d'années parfois d'histoire. J'ai un ami marocain qui est architecte et qui me racontait il y a peu de temps. D'abord, il est passionné de préhistoire, de paléontologie, etc. Et je l'avais mis en rapport avec des professionnels marocains qui partaient sur le terrain. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps et il m'a raconté comment, dans le Moyen Atlas, à quelques dizaines de centimètres de profondeur, il a sorti un fossile, un trilobite de plusieurs centaines de millions d'années. Il en a encore les yeux pétillant de bonheur, quoi. Donc c'est formidable lorsque tout d'un coup les gens découvrent l'existence de ce plaisir immense et puis de ce passé immense aussi.
Vous en avez les yeux qui pétillent et vous avez d'ailleurs, puisque vous parlez de curiosité enfantine, vous avez emmené votre fils Quentin que l'on découvre dans chacune de ses photos, dans beaucoup de vos voyages. Alors parmi tous les grands de ce monde que vous avez rencontrés, croisés, il y a peut-être quelqu'un qui, à mon sens, est un des plus grands, c'est Nelson Mandela. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je propose d'écouter une sorte de medley de quelques-uns de ses discours et vous nous raconterez ensuite votre rencontre avec Nelson Mandela, Yves Coppens.
J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes pourront vivre ensemble en harmonie et avec une égalité des chances. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre. Et s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Notre marche vers la liberté est irréversible. Nous ne devons pas laisser la peur nous entraver. In our way. Never, never, and never again. Jamais, jamais, plus jamais cette belle terre ne subira à nouveau l'oppression des uns par les autres. Let there be justice for all. Que la justice et la paix règnent pour tous.
liberté d'André.
Que règne la liberté.
Nelson Mandela.
Nelson Mandela, force le respect. Qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre, surtout aujourd'hui, Yves Coppens. Comment s'est passée cette rencontre avec, pour le coup, l'homme peut-être le plus remarquable du siècle.
Elle a été brève, mais je la dois en fait à Jacques Chirac. Il se trouve que Jacques Chirac, de manière inattendue, m'avait emmené dans un voyage d'État. Et j'ai fait avec lui toute l'Afrique méridionale, c'est-à-dire l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique. Et lors de notre passage en Afrique du Sud, Mandela a fait un grand dîner pour Jacques Chirac, pour le passage de Jacques Chirac dans son pays. Et donc, en tant qu'invité, enfin, en tant que scientifique me trouvant dans son entourage, j'ai eu l'occasion donc de croiser Mandela, de lui serrer la main, de lui dire trois mots, et d'avoir ce regard puissant sur moi, et, enfin, entre nous, quoi. Et j'ai été très marqué par ce regard, vraiment, je n'ai rarement trouvé de comparable. Je ne sais pas que vous dire, tout à fait ouvert, offert, quoi. C'est une grande générosité pour un monsieur, quand même, qui venait de passer plusieurs dizaines d'années en prison. C'est extraordinaire. Je suis très marqué, d'ailleurs, au fil de mes descriptions, là, par la ténacité de certains de ces chefs d'État. Je pense aussi à celui de Corée du Sud, hein, c'est pareil, qui a frôlé la mort à je ne sais combien de reprises et qui a tenu jusqu'au bout, jusqu'à devenir véritablement lui aussi président de la République. Et à chaque fois avec de vrais désirs de démocratie. Et en gros, le résumé de tout ça, c'est un homme, une voix. Un homme vaut un homme, un homme vaut un homme. Moi, j'ai toujours oui. pensé ça et j'ai toujours dit ça. Je me rappelle que dans mon premier livre pour le grand public, parce que j'en avais fait d'autres, mais scientifiques, en 1983, j'avais mis ça dans la conclusion. Un homme vaut un homme, et ça m'avait valu de grandes amitiés au sein de bien des milieux, y compris des mondes auxquels je ne m'attendais pas, quoi.
Oui, l'humanisme, hein, l'humanité. Et c'est ce que vous montrez finalement aussi chez des grands de ce monde. On a choisi ce titre un peu malicieux, hein, quel lien entre les fossiles et les grands de ce monde. Mais vous montrez à la fois, alors c'est votre humanité, hein, qui ressort, notre humanité, dans ces liens-là, aussi parfois avec des choses extrêmement drôles autour de l'empereur du Japon, autour de protocoles incroyables. Votre amitié avec le président Jacques Chirac, on va y venir, parce que c'est une vraie amitié. Mais vous placez ça sur un terrain qui est celui, oui, de notre humanité commune, de ses valeurs communes. C'est pas pour rien que Senghor, Mandela vous ont tant marqué, Yves Coppens.
Oui, sûrement. Enfin, je suis très heureux que vous ressentiez ça. Moi, j'aime bien les gens, quoi. J'aime bien les gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et donc, que ce soit des chefs d'État ou d'autres gens, c'est pareil. Et si, encore une fois, là, je tiens à le dire, j'ai choisi dans ce bouquin les chefs d'État. Je peux faire d'autres livres, d'ailleurs, avec d'autres catégories. Mais c'est parce qu'il me semblait qu'entre le chef d'État et le chercheur, la distance était véritablement la plus grande, qu'il n'y avait aucune raison que ces deux extrêmes se rencontrent.
Oui, deux extrêmes, parce que le chercheur, chercheur, il fouille la terre, il va dans les labos. Voilà, ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse.
Il s'en fiche du palais, oui, bien sûr. Et tout d'un coup, quand il y a un fossile qui est entre les deux, le fossile fait la médiation et puis ça intrigue le prince, hein, qui vient voir le fossile. Et puis derrière le fossile, il trouve le chercheur, d'où ces liens, quoi.
Et ces liens qui sont différents de ceux habituels, puisqu'au fond, c'est l'empereur, le roi, la reine qui vous demande explication. Oui. Et c'est ça, hein.
Oui, parce que ça, d'abord, c'est les intrigues, mais il y a aussi le fait que pour eux, je ne représente pas... quelqu'un d'embêtant qui va leur demander forcément des sous, qui va essayer d'obtenir des choses pour son pays, son État, son continent, enfin je ne sais pas quoi. Donc c'est un petit peu dans leur vie qui est toujours extrêmement prise, extrêmement contraignante. Ce sont un petit peu des pauses, me semble-t-il. Enfin, j'ai ressenti ça comme ça, si vous voulez.
C'est qu'à chaque fois, autour du savoir, autour de l'origine de l'homme.
Oui,
autour de...
À chaque fois, les rapports, les conversations, les discussions ont été tout à fait apaisées, tout à fait sereines.
Allez, on va du côté du Maroc, puisque vous avez aussi rencontré les rois du Maroc, Yves Coppens, autour de la question: quel rapport entre les fossiles et les grands de ce monde? C'est une princesse du jazz marocaine que nous proposons d'écouter tout de suite, Oum, sur RFI.
دينيت ما درجع درجع بشوية حتى نوصلو صحاب وتكون السما فتح البواب دينيت ما ديك الخيمة فوق الغيمة اللي بنيناها وفرشنا بيدينا أنا وياك تما نجلس وتما نحس وتما نضحك وتما ندوي ونسكت وتما نحيا كما كنا تما نكونو حنا وما حنا تما جناننا تما وعالم كاديني لتما تما ديني لي ديني لتما ديني لذاك لي ديني لتما اللي حنا يا مالي ديني تما فينا عراسي قصرنا وسبول قمح حقولنا والداليات وعسل لقرنفل ديني تما فينا مراسي بحرنا ومكان ذاب عقولنا تما فيني تلالا ذاب الرمل تم نتكا وتما نبقى وتم نسال وما نلقى وجواب تما ما بقينا نخمم وتخمم
La douce voix de Oum sur RFI, histoire de faire un clin d'œil au Maroc, Yves Coppens, où a été découvert, surtout daté récemment, le plus ancien homo sapiens au nord du continent africain. Maroc, pays qui vous est cher, dont vous avez aussi croisé les rois du Maroc. Allez, on quitte le continent africain pour revenir en France, autour de la question: quel rapport entre les fossiles et les grands de ce monde? Vous avez rencontré, discuté avec tous les présidents de notre 5e République, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, mais celui qui vous a le plus marqué, Yves Coppens, avec qui vous avez développé une amitié sincère, c'est Jacques Chirac. Je propose de l'écouter dans un extrait qui date de 2007 et que nous n'avons pas choisi par hasard. Il s'agit de son appel de Paris pour une déclaration universelle des droits et des devoirs environnementaux.
Nous, citoyens de tous les continents, responsables politiques, représentants d'organisations internationales ou non gouvernementales, scientifiques, chefs d'entreprise, simples citoyens, nous lançons un appel solennel à une vaste mobilisation internationale contre la crise écologique et pour une croissance respectueuse de l'environnement. Nous appelons à l'adoption d'une déclaration universelle des droits et des devoirs environnementaux. Cette charte commune garantira aux générations présentes et futures un nouveau droit de l'homme, le droit à un environnement sain et préservé.
Jacques Chirac, en 2007, Yves Coppens, vous y étiez, bien sûr, parce que cette conscience environnementale, écologique, vous l'avez développée vous aussi.
Ben, pas moi aussi, je l'ai développé parce que Jacques Chirac me l'a demandé. Et je lui ai installé, enfin je lui ai écrit, enfin avec un certain nombre de gens bien sûr, en 10 mois, la base de cette histoire. Ce qu'il voulait, ce à quoi il tenait beaucoup, c'est donc d'écrire, de faire écrire une charte de l'environnement. Et cette charte de l'environnement qui, forcément, étant donné sa présidence, ne concernerait que la France avec les limites de son propre pouvoir. Cette charte de l'environnement, il avait l'espoir de l'agrandir au monde entier. Alors la charte, moi j'ai été chargé de la faire, j'ai traîné un peu les pieds, et finalement je m'y suis attaché.
Vous aviez peut-être d'autres choses à faire en même temps aussi,
oui,
hein,
c'est-à-dire
comme toujours.
Que ça m'intéressait à moitié en fait. J'ai essayé de m'en sortir, mais je n'ai pas réussi. Chirac a été le plus fort. Et donc quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire bien, en tout cas proprement. Et donc, je m'y suis mis et pendant 10 mois, donc j'ai travaillé beaucoup avec un petit groupe seulement de 18 personnes. Mais ces 18 personnes faisaient eux-mêmes des audits. On avait construit des quantités de conseils autour de nous, des quantités de comités, de commissions, etc. Un forum internet, des grandes réunions régionales. Et finalement, au terme de cette histoire, il se trouve qu'on a constaté qu'on avait à peu près eu des retours de 500 000 personnes. 500 000 personnes. Alors évidemment, sur nos 60 millions de gens, ça ne fait pas beaucoup. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est quand même un peu de la démocratie participative. Quoi.
Exactement. Et ça, c'était en 2007, vous avez...
Non, c'était en 2002-2003.
2002-2003, pardon.
Et la charte de l'environnement, avec évidemment l'intervention de Jacques Chirac, est entrée dans la Constitution française en 2005. Donc je suis aux côtés des droits de l'homme et des droits économiques et sociaux dans la Constitution française grâce à Jacques Chirac.
Mais il faut pas, vous êtes partout, vous avez croisé tout le monde, vous êtes partout, vous dites avec un grand sourire, mais au fond sur tous les vrais et grands combats, hein. Notre humanité née en Afrique, notre humanité diverse, les questions environnementales. Est-ce que c'est votre métier de paléontologue? Est-ce que le fait de se pencher sur notre passé rend plus perspicace, plus conscient peut-être des vrais enjeux
Peut-être, mais ça, c'est pas exprès. Si Jacques Chirac est venu me chercher, ça, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, ça le regarde. Mais encore une fois, peut-être que c'est parce que je travaillais en effet sur ces origines de l'homme qui lui importaient beaucoup. Et puis peut-être parce que ça a créé entre moi et le problème chaud du changement climatique une certaine distance, une certaine sérénité que j'espère m'habite toujours.
Oui, c'est une forme de sérénité, quoi, d'être sur le temps long toujours,
sûrement.
De relativiser quelque part.
Sûrement, bien sûr. Je crois, c'était un peu prétentieux, mais que ça permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire ou quelque chose de ce genre. Et finalement, on se rend compte que l'essentiel, il n'y a pas grand-chose. Quoi. L'accessoire remplit les existences de façon un peu triste. Et quand on cherche l'essentiel, eh bien, ça se réduit à peu de choses et ça donne incontestablement une certaine distance, une certaine altitude peut-être.
Voilà enfin. Pourquoi aussi vous dégustez chacune de ces rencontres avec les grands de ce monde. Il y en a 50, mais en même
avec
temps...
Avec tout le monde.
Avec tout le monde.
Avec
mais
vous
en
aussi.
Temps, vous n'êtes, mais c'est ça. Et c'est absolument. Et moi aussi, hein, je dois dire. Parce que vous n'êtes pas... Vous êtes à la fois impressionné, mais pas impressionné non plus. Il y a quelque chose d'autre dans ce que vous racontez de toutes ces rencontres avec ces grands de ce monde. C'est le contraire d'être mégalo. C'est le contraire exactement, Yves Coppens. C'est cette distance-là aussi, c'est relativiser, c'est savoir que finalement, ben voilà, dans quelques millénaires, peut-être que d'autres paléontologues fouilleront et disserteront sur nous, humains.
Ben, sûrement, oui. Mais en tout cas, en ce qui concerne les chapitres, ce que je peux vous dire, c'est que de par ma nature et peut-être aussi mon éducation, ma déférence était totale et elle est restée.
Oui. Mais il y a du respect, absolument.
Mais à côté de ça, à chaque fois que j'ai rencontré un de ces chefs d'État ou une, j'ai eu l'impression d'avoir rapport à une autre personne. Et puis c'est tout. D'où la facilité. Enfin, c'est pas exprès. Hein, d'où la facilité des contacts et la facilité des échanges et d'où mon espièglerie entre guillemets, enfin, pas exagéré, mais avec quiconque, y compris la reine d'Angleterre, qui a bien compris qu'il fallait se mettre sur le même plan et même ton et qu'il l'a pris sans difficulté.
Et oui, nous sommes tous des êtres humains et se regarder chacun en tant comme être humain. Allez, puisque vous êtes, vous l'avez dit, espiègle et malicieux, j'ai envie de finir sur une question en forme de pirouette, hein, soulevée par un psychiatre malicieux. Lui aussi, c'est Patrick Lemoine, qui s'est intéressé entre autres à la santé mentale de ceux qui nous gouvernent. Écoutez, sa question, elle ne peut être que pour vous, Yves Coppens.
Alors, je ne sais pas si on peut traiter de fossiles les gouvernants du monde de tout temps. Est-ce qu'on peut imaginer que la structure mentale de Zénobie était la même que Catherine de Russie ou que Golda Meir? Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution? Est-ce que nos gouvernants sont fossilisés ou non? J'aimerais beaucoup avoir votre réponse, Monsieur Coppens.
Yves Coppens, votre réponse à cette question impossible du psychiatre Patrick Lemoine.
Absolument impossible. Non, tous les chefs, enfin les 50 chefs d'État que j'ai rencontrés n'avaient absolument rien de fossile. Ils étaient vraiment très, très pugnaces, très dans leur combat. Et c'est une espèce d'évocation aussi, de vouloir être chef d'État, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, c'est une contrainte épouvantable. Et cet esprit de chef d'État ait évolué, sûrement, parce qu'on ne tient pas aujourd'hui une population qui aspire à la démocratie avec toutes les contradictions que ça comporte. Comme Ramsès II, que j'ai aussi rencontré.
Oui, vous avez aussi rencontré Ramsès II, c'est vrai, de très près.
Faisait à son époque. Donc, qu'il y ait une évolution de leur esprit, bien sûr, qu'il y ait une évolution de leur cerveau, bien sûr. Ceci dit, leur squelette sera probablement, enfin sûrement, comme le squelette des autres, et en ce sens, ils s'alignent dans l'ensemble de l'humanité qui est superbe. Mais c'est vrai que pour moi qui suis naturaliste d'abord, quand on voit la réaction de la nature face à l'exigence de la survie, il y a une espèce d'obsession de la survie de l'espèce, absolument, absolument. Et quand on passe de l'être vivant, qu'il soit plante ou animal, à l'homme, l'exigence de la survie, à l'exigence de la survie s'ajoute l'exigence de la survie de l'individu, de l'âme. Autrement dit, enfin, en l'occurrence, l'âme, bien sûr. Autrement dit, avant, c'est vraiment la survie de l'espèce, d'où le nombre de pollen dans une fleur, le nombre de, je sais pas, d'olives dans un arbre. Et puis, tout d'un coup, ça devient vraiment la personne. Regardez la manière dont on décompte un à un aujourd'hui les gens qui sont contaminés par ce foutu virus qui ne fait que finalement vivre sa vie.
Oui, c'est ça. On est passé au règne de l'individu et de l'être humain, de chaque être humain.
De chacun, c'est ça.
Alors vous, Yves Coppens, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on garde de vous ? J'ose cette question.
Ah oui, je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Je crois que ça n'a pas d'importance. Parce que j'avais l'intention de laisser mon squelette, vous voyez, au laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme. Donc, vous voyez que ça m'importe peu. Je préférais quand même que mon squelette, enfin mon corps, serve à quelque chose, plutôt que d'être brûlé. Je trouve très triste que les gens se fassent brûler, parce que c'est détruire des preuves pour notre boulot, quand même.
Et c'est le paléontologue qui
Et quand je vois même que des paléontologues, enfin, je ne pourrais pas lui citer, parce que ce serait désagréable, mais on souhaitait être incinéré. C'est effrayant, c'est vraiment très triste. Donc conservez votre corps, par pitié, il nous sera utile.
Merci infiniment pour cette conclusion. Yves Coppens, je rappelle le titre de votre ouvrage à nul autre pareil, Le savant, le fossile et le prince, sous-titré du Labo au Palais, que vous venez de publier chez Odile Jacob, qui est aussi l'éditrice de vos principaux ouvrages qu'on peut citer, Le genou de Lucie, Préambule, Prétexte, Prélude ou encore Origine de l'homme, Origine d'un homme. Cet ouvrage, Le savant, le fossile et le prince, nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Avis aux amateurs, merci infiniment Yves Coppens d'avoir partagé quelques-unes de ces rencontres avec nous.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à vous abonner au podcast d'Autour de la question sur vos applications favorites. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la question, comment repenser le vivant, justement tout le vivant ensemble, et pourquoi biodiversité et santé globale sont indissolublement liées. Pistes de réponse et de recherche à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fuyette en coulisses. Merci de votre curiosité, chers amis auditeurs et auditrices. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possible. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.